sortîmes à l'extérieur du porche de la ville, le long d'une rivière, où nous imaginions qu'il était un lieu prié. Il n'y a pas de synagogue dans la ville, on sort de la ville, on va voir, pleine une source. Et nous étions assis, et nous parlions de vos femmes qui s'y trouvaient réunies. Et une certaine femme, du nom de Lydia, négociante en pourpre de la ville de Thyatire, une des villes de l'Apocalypse, dont on parle dans l'Apocalypse, vénérant Dieu, et nous arrivons dans un monde grec où les femmes ont un statut social souvent différent du statut qu'elles ont dans les villes où il y a, dans le judaïsme, où elles sont souvent dans, à l'intérieur de la maison, tandis que les hommes sont sur la place publique. Ici, nous voyons ici une femme qui est négociante en cours, qui, nous dirions aujourd'hui, qui dirige une
PME,
par exemple, un important comptoir de tissus, vénérant Dieu, et ici nous trouvons aussi quelque chose, on ne dit plus craignant, c'est bon noiteron. Il a changé son vocabulaire en passant en Europe. Et ça aussi c'est intéressant. Ce n'est plus craignant Dieu, ça c'est le terme que utilisaient les Juifs. Ici, on dit vénérant Dieu, c'est bonnoi, c'est vénération. On dit ça aussi des faux dieux. Vénérant Dieu. Entendez. Dont le Seigneur ouvrit le cœur pour s'attacher à ce qui fut parlé par Paul. Donc c'est le Seigneur qui fait qu'elle écoute. Et intéressant aussi cette périphrase. Pour bien montrer qu'il y a une sorte de connivence intérieure faite par l'Esprit. L'Esprit a envoyé le Macédonien, il faut encore qu'il soit là sur place pour prendre la livraison de la parole. Or, comme elle avait été baptisée, ainsi que sa maison, on ne dit même pas qu'elle avait reçu l'Esprit Saint, celle-là. Baptisée ainsi que sa maison, ça nous renvoie évidemment à Corneille. Elle conjura en disant: si vous vous trouvez m'avoir jugé être fidèle au Seigneur, si vous pensez que j'ai la foi, autrement dit, c'est pas moi qui dois le décider, c'est vous. C'est vous qui devez reconnaître ma foi. Si vous trouvez m'avoir jugé être fidèle au Seigneur, étant entré dans ma maison, demeurez-y sans cesse, et nous y comprenons. Hospitalité un peu musclée, comme vous voyez. Hein? Mais voilà.
C'est une bonne hospitalité.
Voilà les débuts de la première communauté européenne. Une femme fait l'hospitalité, et vous rencontrez ici une autre femme, et celle-ci se trouve aliénée. Une femme libre, une femme aliénée. Dans un monde différent, grec-romain. Il arriva comme nous faisions route vers le lieu de la prière, ils reviennent à ce lieu de la prière. On ne dit pas si ce lieu était une maison ou si c'était un lieu plein air, qu'une certaine jeune servante ayant un esprit python. L'esprit python fait allusion au serpent python de Delphes, d'un esprit de divination. Vint à notre rencontre, laquelle procurait un profit nombreux à ses maîtres. Voilà la rencontre de la parole avec l'argent. Saint-Luc nous a dit qu'on ne pouvait pas servir Dieu et Mammon. Et voilà. On va le rencontrer. Mais évidemment, en rendant des oracles, elle procurait de l'argent à ses maîtres. Celle-ci, suivant de près Paul, et nous, criait en disant: ces hommes sont serviteurs du Dieu très haut. Les païens parlent toujours du Dieu très haut. Tandis que, on donne d'autres titres plus communs dans le judaïsme, quand il s'agit de juifs. Lesquels vous annoncent un chemin de salut. Elle voit clair, cette femme. Hein? Or, elle faisait ceci pendant de nombreux jours. Et Paul, ayant été agacé, s'étant retourné, dit à l'esprit: je t'enjoins au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Rendez compte. Et il sortit à l'heure même. Comme Jésus avait fait quand il se trouvait dans la synagogue, en arrivant à Capernaum. Or, ces maîtres, ayant vu qu'ils étaient sortis espérant de leur profit, en même temps que l'esprit en question, l'espérance de profit sort de la femme, s'étant saisis de Paul et de Silas, les tirèrent à la place publique devant les magistrats. Voilà ce qui se passe. La parole a des effets secondaires. Certains médicaments. Et il se fait qu'on se trouve dans des systèmes. Et ce système est un système d'administration et un système juridique, bien entendu. Alors, on va dire tout de suite, on va dire, oui, ce sont des juifs. Il faut un bouc émissaire. Ces hommes bouleversent notre ville étant juifs. Et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accueillir sans cesse auprès de nous. Il le fait sans cesse, il est en romain. Romain et juif, ça ne va pas. Nous, on ne veut pas ces gens-là. Et la foule se dressa contre eux. Et les stratèges, ici encore, c'est les termes qu'utilise Luc sont tout à fait précis. Il dit chaque fois, pour chaque ville, alors que le nom des magistrats est différent d'une ville à l'autre, suivant le type d'administration qu'il y a dans la ville, et donc on a pu recouper tout cela, les termes précis sont indiqués chaque fois par lui. Il ne parlera pas de magistrat n'importe comment, ici il dit les stratèges, c'est comme ça qu'on les appelle. Stratégos. Ayant déchiré sur eux leurs vêtements, ordonnait de les battre. On les met à nu, on leur déchire leurs vêtements et on les bâtonne. Et leur ayant imposé des coups, ils les jetèrent en prison. Voilà, ils délivrent quelqu'un, ils sont en prison. Situation tout à fait normale, hein, puisque nous trouvons de nouveau un témoin. Ayant enjoint au gardien le cachot de les garder sans cesse, nous retrouvons Pierre en prison, vous voyez. C'est la même type d'image. Pourquoi nous raconte-t-il les choses de la même manière? Pour nous montrer la continuité, le thème récurrent, comme je vous le disais. Pierre et Jean ont été en prison, les apôtres ont été en prison, Pierre a de nouveau été en prison, Paul est de nouveau en prison, lui aussi. Il a été sans doute plusieurs fois. Mais on vous raconte les choses pour montrer une sorte de logique de la parole. Lequel, ayant reçu une telle injonction, les jeta dans la prison intérieure, le nouveau quartier de haute sécurité, et il attacha solidement leurs pieds à l'entrave. Tout ça, ils ne vont pas partir. Et vers minuit, qu'est-ce qui se trouve en prison? Ils prient. Ils chantaient les psaumes pour Dieu. Et les prisonniers leur prêtaient l'oreille. On se met à écouter. C'est chaud. Et tout à coup, un grand tremblement arriva, de sorte que les fondements du cachot furent secoués, et subitement toutes les portes furent ouvertes, et les liens de tous furent relâchés, et le gardien de cachot tiré du sommeil, et on vit les portes de la prison ouvertes, et en dégainant son épée, il allait se faire périr. Et maintenant, tout le monde va partir. Tremblement de terre, donc on le dépeint, une petite pentecôte se prépare. Effectivement. Il va y avoir aussi une Pentecôte en Europe, comme il y en a eu en Asie, comme il y en a eu à Jérusalem, hein, c'est normal. Paul, donnant de la voix, disait, n'agis rien de mal pour toi-même, car tous nous sommes ici même. Ayant réclamé des lumières, il fit irruption, il est devenu tout tremblant, tomba contre Paul et Silas, et les ayant fait comparaître dehors, il déclara, Seigneur, que me faut-il faire? Tiens, voilà, nous retrouvons la Pentecôte de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Nous retrouvons les gens qui interrogeaient Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il nous faut faire?
Et ces termes qui reviennent nous montrent bien c'est le même mystère qui se reproduit. C'est la même séquence de faits. Que me faut-il faire pour que je sois sauvé?
Et lui dit, ben, crois dans le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Toi et ta maison. Il dit, et sa maison. Corneille sa maison, le centurion et sa maison, avec tous ceux qui étaient dans sa maison. Et ils lui parlèrent la parole du Seigneur avec tous ceux qui étaient dans sa maison, et les ayant pris avec lui en cette heure de la nuit, il les baigna de leur cou, et il fut baptisé, lui et tous les siens, sur le champ. Ah oui, le travail de l'Esprit Saint. C'est immédiat. Et les ayant conduits dans sa maison, dans la maison, il fit servir une table, il tressaillit d'allégresse, signe de la présence de l'Esprit Saint, en famille, se trouvant là en Dieu. Voilà comment on vous raconte les choses. Alors, il faut bien sûr prendre une certaine distance par rapport au texte. Si vous lisez ce texte comme si les choses s'étaient passées exactement comme cela,
on demande où sont passés les autres prisonniers.
Ben oui, on ne parle pas de tout. Les détails sont signifiants à chaque fois. Mais je vous ai noté, et vous pouvez relire cela vous-même, je vous ai noté les thèmes récurrents. C'est pour ça que je prends tout le texte. Et c'est ça qui est important de dire. De quoi il cause en choisissant tel ou tel événement? Il ne veut pas nous faire un récit anecdotique. Et cependant, les détails précis, concrets, les hommes, le nom des administrateurs, des magistrats, etc., ceux-là, ils sont précis. Donc, à la fois, il est enraciné dans une histoire concrète et dans des systèmes sociaux, politicaux, économiques, enraciné là-dedans, et en même temps, on choisit les détails qui montrent quoi? Qui montrent le regard de quelqu'un qui voit la présence de Dieu, qui rencontre le Christ à travers son esprit. Alors évidemment, c'est pas fini, tu vois. Comme le jour était arrivé, les stratèges envoyèrent des licteurs, qui étaient les gendarmes de l'époque, délient ces hommes-là. Oh, regarde bien, Cachot rapporta ses paroles au protocole. Les stratèges ont envoyé des gens afin que vous soyez déliés. Maintenant donc, étant sortis, ces troupes sont présentes. Or, Paul déclara à leur adresse, nous ayons porté des coups en public, sans jugement, alors que nous sommes des hommes romains, et là, monsieur, nous sommes dans un système romain, et nous sommes romains, citoyens romains. Je m'appelle Paulus. Et Paulus dit que je participe à la grande gens, à la grande famille des Paulus. On ne fait pas n'importe qui. Donc faites attention à ce que vous faites. Ici, vous faites une erreur. Et donc, Paul va toujours se montrer plus juif qu'un juif quand il se trouve devant un Sanhédrin, et plus romain qu'un romain quand il se trouve devant dans un procès romain.
Il était déjà jésuit.
Il y a cet avantage sur Jésus d'être à la fois juif et romain. Pas païen, romain, citoyen romain, c'est très différent. Hein? C'est dans l'ordre de système sociopolitique. Nous ayons porté des coups en public sans jugement alors que nous sommes hommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, à l'insu des gens, ils vont nous jeter dehors. Ça va pas ça, hein? Il faut signature, etc., documents officiels. Ça, non. Mais étant venus eux-mêmes, ils nous emmènent dehors. Ils ne portent pas leur responsabilité, ces gens-là. Or, les lecteurs rapportèrent aux stratèges ces paroles d'événement. Vous voyez, ils disent ces paroles d'événement ici. Enfin, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est des paroles qui les engagent. Ils craignirent, ayant entendu qu'ils étaient romains. Ils devaient s'enquérir d'abord de cela. Mais on leur a dit c'est des juifs. Ah, ils n'ont pas pensé c'est des romains. Vous voyez? Alors, ça, c'est une faute. Non pas faute du droit romain. Le droit romain protège la personne, mais c'est une faute des stratèges. Ils n'ont pas pris vraiment leur responsabilité. Et étant venus, ils les conjurèrent, les ayant emmenés dehors, et ils leur demandaient de s'éloigner de la vie. On peut comprendre. Étant sortis de la prison, ils rentraient auprès de Lydia. Vous vous rappelez, pas un Pierre, sorti de prison, la fauvée, hein, dans la maison de Marie, la communauté. C'est pareil. On nous raconte les choses de la même manière pour nous montrer que c'est la même histoire
ayant vu les frères, ils les exhortaient.
Il fallait bien aller chez les gars pour les nouveaux
vêtements. Ah, évidemment. Et oui, ce texte est en fait programmatique, vous voyez bien. C'est comme ça qu'il va arriver partout. Évidemment, les villes vont être différentes, toutes ne vont pas être des administrations romaines, mais qu'est-ce qui se passe dans une ville romaine, une ville bien administrée, bien organisée? Il y a un pouvoir romain qui doit bien fonctionner, qui normalement fonctionne bien. Eh bien, il y a des choses qui échappent. Parce qu'on délivre une personne, et que cette personne procurait du profit à ses maîtres, et les gens délibérateurs sont mis en prison. Ça, c'est l'effet secondaire de la mission, de la parole. Autrement dit, la parole a une incidence, donc la parole se situe, nous dirions, sur le plan spirituel ou surnaturel. Elle a toujours des incidences concrètes. Et on ne peut pas échapper à ces incidences concrètes. C'est-à-dire que notre parole, notre vie chrétienne, se trouve toujours dans une situation humaine. Et cette situation humaine doit être prise en compte. Et il y a des lieux et il y a des moments où il y a opposition. Et donc, il y a des résistances. Il faut voir comment, quel chemin on peut trouver à travers ça. Donc là, nous avons un pouvoir romain. Et puis après, nous allons avoir des villes plutôt juives. C'est-à-dire qu'on va retrouver des endroits, toujours bien sûr en Grèce, Thessalonique, Libéré, etc. On va trouver des communautés juives. Quand on se retrouve dans les communautés juives, à partir de quoi discute-t-on à partir de l'écriture c'est ce qui est montré. Et donc Paul et Silas essaient chaque fois de montrer dans ces communautés juives comment le Messie qu'ils attendent est vraiment Jésus. Alors vous avez cela au chapitre 17e. Je ne m'étends pas là-dessus.
Dans le carré, on met les noms des villes. Il descend sur le temple.
Et alors, nous avons indiqué Philippe la romaine. Comme maison. La romaine. Pourquoi la romaine? Justement parce que c'est une administration, c'est une caractéristique, disons que l'administration est tout à fait romaine. Après cela, nous allons passer à Thessalonique et Bérée. Thessalonique et Bérée. En même temps, nous passons, on descend de la Macédoine vers la Caïe, vers la Grèce. Et là, justement, on discute à partir des Écritures, de nouveau, hein, puisqu'on est dans les communautés juives, de nouveau, bagarre entre les juifs intégrés, nous dirons, et les juifs plus ouverts. Et quand même, je voudrais prendre le verset 6 du chapitre 17. N'ayant pas trouvé, ils avaient les missionnaires, avaient été hébergés par un certain Jason, et ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et certains frères devant les politarques. Vous voyez, un autre terme utilisé ici, politarques, c'est-à-dire ceux qui commandent dans la ville, police, hein, arquet, ceux qui commandent. Clamant, ceux qui ont mis, je suis donc au chapitre 17, verset 6, ceux qui ont mis sans dessus dessous l'univers. Ceux-ci sont présents ici même aussi, auxquels Jason a fait accueil. Et tous ceux qui agissent en opposition au décret de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Vous reconnaissez, hein? Le procès de Jésus. Et c'est comme ça qu'il raconte l'histoire. Ils troublèrent la foule, et les politarques qui entendaient ceci, et ayant pris une caution, l'argent c'est la peur pour aussi, ayant pris une caution de la part de Jason et des restants, ils les relâchèrent. Ils ont vraiment de l'argent, moyennant quoi, on les laisse. Puis vous avez
un béret, je ne reviens pas là-dessus.
Mais, intéressant de voir maintenant le chapitre 17 avec Athènes. Parce que là, nous avons de nouveau, comme avec Philippe, on avait un type, la rencontre du pouvoir par une libération intérieure. Ici, nous allons avoir avec Athènes un autre type, la rencontre du savoir, de la philosophie. Et donc ça, c'est un autre type d'effet secondaire, d'incidence de la parole sur un savoir. Nous dirions aujourd'hui l'incidence de la parole sur la technique, sur la science d'aujourd'hui. Il y a des lieux de conflit entre l'un et l'autre.
Bioéthique.
Bioéthique, par exemple. Et donc c'est tout cela qui est derrière ce schéma. Il faut maintenant essayer d'actualiser tout cela, mais la parole qui intérieurement libère et la manière, le système du savoir, de l'avoir, de l'économique, ou du politique, ou du social, les savoirs ne sont pas toujours en harmonie avec cette réalité profonde à l'intérieur. Et il y a des lieux de conflit. Ici, on dirait que Paul va attaquer le philosophe dans ses retranchements. Et ce texte est absolument un chef-d'œuvre. On a écrit beaucoup, vous pouvez voir dans la bibliographie que je vous ai marquée, je me suis beaucoup amusé à lire pratiquement tous les commentaires de ce texte. Les commentaires sont intéressants, et le texte est encore davantage. Parce qu'aucun des commentaires ne dit tout ce qu'il y a dans le texte. Tellement ce texte est une richesse extraordinaire. Paul était en attente d'eux à Athènes. Vous savez que l'évangile de Luc commence par le peuple qui était en attente. Il attend que Zacharie sorte du temple. Le peuple qui attend, qui vient trouver Jean-Baptiste, était en attente. C'est cette attente messianique. Et si Paul était en attente d'eux à Athènes, c'est-à-dire qu'il attend ses compagnons, mais l'intéressant c'est l'attente. Il attend ses compagnons qui doivent venir le rejoindre. Il pourra laisser partir en avant. Pendant qu'il était dans l'attente de Athènes, ce n'est pas seulement une attente messianique ou une attente de ses compagnons, mais son esprit était vivement irrité. Il est irritable. Il avait déjà été agacé par la femme. Il avait été irrité aussi parce que Jean-Marc ne marchait pas avec lui. Il observait que la ville, de nouveau la ville, était pleine d'idoles. À cette époque-ci, évidemment, Athènes n'était plus la grande ville d'autrefois, hein, du siècle de Périclès, 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes au 1er siècle. Ça reste encore une ville universitaire, une sorte d'Oxford ou de Cambridge. Une école universitaire importante, toujours une ville lumière, mais qui profite plutôt d'une réputation. Mais ce n'était plus le grand centre qu'il avait été. Il dialoguait donc dans la synagogue avec les Juifs, et il continue, Il ne laisse pas les Juifs pour aller vers les païens. Et ceux qui vénéraient Dieu, remarquez toujours, vénérer maintenant, c'est Bobaï. Ceux qui vénéraient Dieu. Et chaque jour, sur la place publique, à l'adresse de ceux qui se trouvaient les premiers venus, ils discutent avec les gens sur la place. Or, certains des philosophes, et épicuriens et stoïciens, c'est-à-dire deux grands types de philosophie, plutôt des types de philosophie morale, c'est plutôt philosophie au sens où nous l'entendons aujourd'hui, des manières de voir, des manières de faire, des manières d'agir aussi. J'essaie de décrire de façon plus concise possible, de faire percevoir ce qu'étaient ces types de philosophie. C'est un système à la fois intellectuel, mais simple, pas tellement compliqué, intellectuel, et aussi moral. Que faut-il faire pour ne pas se laisser atteindre par toutes les vicissitudes, les épreuves de la vie? Donc il faut garder une certaine
paix, sérénité intérieure. Donc c'est une manière de vivre. C'était les deux, donc, avec des tendances un peu différentes, les épicuriens, les gens plus ouverts, les stoïciens qui sont plus rigides, pour tous les goûts. Il faut des gens de gauche et des gens de droite, si vous voulez. Le rencontrait, et certains disaient, qu'est-ce que ce ramasseur de graines vous veut dire? Un ramasseur de graines. C'est la traduction littérale. Qu'est-ce que ce ramasseur de graines, qu'est-ce que ce perroquet est en train de raconter là,
hein? Chacasse.
Et d'autres, on dirait un prédicateur de divinités étrangères. Il vient nous raconter quelque chose d'étranger. Parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection.
Ils ont quand même compris l'essentiel.
C'est lui qui dit ça. Parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Qu'est-ce que c'est ce langage-là? On n'y pige rien. Là, nous retrouvons davantage d'atmosphère d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de raconter avec notre résurrection. Et non, Jésus. Et l'ayant saisi, ils le menèrent à l'aréopage. De nouveau, l'aréopage, ce n'était plus le conseil des juges d'autrefois, mais c'était une sorte de gens bien pensants, une sorte de...
Université d'été.
Oui, conseil des sages. Une sorte de conseil des sages, plutôt. Oui, pas l'université d'été, conseil des sages. Disons, pouvons-nous connaître quel est ce nouvel enseignement que parlait Barton? Un petit peu, hein, se renseigner. Car tu fais entrer dans nos écoutes, car tu nous verses dans les oreilles, autrement dit, quel enseignement étrange. Littéralement, quelque enseignement hébergeant, qui héberge toutes sortes d'affaires. Nous voulons donc connaître ce que ça veut dire. Nous, on est des gens précis. Alors, réflexion de Luc. Or, tous les Athéniens et les étrangers, c'est le moment-là, les Athéniens et les étrangers, vous vous rappelez? Les gens de Jérusalem, les étrangers qui étaient venus, hein, à la Pentecôte. Il y a tout le temps des mots qui nous renvoient à d'autres mots du même truc. Les Athéniens et les étrangers, c'est ce moment-là, n'avaient de moment pour rien d'autre que pour dire sans cesse ou entendre sans cesse ce qu'il y avait de plus grand. Code 9. Ça, c'est l'intérêt. On est tellement pris par la nouveauté, hein, qu'on ne sait plus quoi. La nouveauté. Mais la nouveauté de demain fait disparaître la nouveauté d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui fait disparaître celle d'hier. Alors finalement, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que c'est que le plus nouveau? Et il utilise ici plus nouveau.
La dernière nouveauté.
Oui, la dernière nouveauté. Oui, c'est exact. La dernière nouveauté, le plus neuf. Pas la véritable nouveauté. La véritable nouveauté nous vient d'en haut. Le véritable neuf, c'est Dieu. Mais le plus nouveau, c'est... Ça se répète. Or, Paul, ayant été placé debout au milieu de l'arrière-page, à Areopagos, déclara homme athénien. Suivant toute chose, je vous observe comme les plus sensibles à la vie. C'est vraiment des gens vivants. Extraordinaires. Alors qu'ils avaient pris une bonne distance par rapport à la religion. La religion devenait en quelque sorte un peu une superstition. Et je vous observe comme les plus sensibles à la vie. Car traversant la ville et observant attentivement vos monuments sacrés, j'ai trouvé même un piédestal sur lequel se trouvait écrit « à un Dieu inconnu ». Effectivement, on a retrouvé, fouille archéologique, deux stèles, une entière et une en morceaux, aux dieux inconnus au pluriel. C'est possible qu'il y ait eu des stèles de ce genre, et que Paul ait eu des inconnus dans la cœur. Possible. Ce que donc vous vénérez avec piété en ignorant, ben moi je vous l'annonce. Donc il y a quelques... Mais voyez un petit peu ce qu'il est en train de raconter. Il y a beaucoup de bon en vous, hein, mais il y a aussi des limites. Eh bien moi je me situe juste à tangente, hein, à la limite. pour vous apporter juste ce qui vous échappe, et que vous confessez d'ailleurs qui vous échappe, hein, vous confessez qu'il y a une nuit. Et alors, comme il fait quand il est devant des païens, le Dieu qui fit le monde. Alors on souligne le Dieu créateur. Il ne va pas parler du maître de l'histoire, il va résigner tout de suite, et il parle d'abord du Dieu créateur. Mais oh, c'est lui, évidemment. Le Dieu qui fit le monde et tout ce qui est en lui, celui-ci étant Seigneur du ciel et de la terre, c'est comme ça que nous l'appelons, n'habite pas en des sanctuaires faits de main d'homme. Hein, vous hébergez dans tous vos temples des statues de Dieu, pas une telle statue de...
Il a repris les propions de Tien.
Mais c'est pas plus Dionysos, etc.
Il a repris les propions de Tien qui disait ça de
Tien. Mais oui, il n'habite pas les temples faits de main d'homme. Vous voyez, j'ai mis entre parenthèses 7:48, ce qui renvoie précisément à Étienne. Alors, il parle avec des expressions d'Ancien Testament, des expressions de Juifs, mais qui peuvent être aussi comprises par les autres. Son vocabulaire est choisi pour être à la fois, pour avoir un sens précis dans la Bible, et aussi pour avoir un sens évocateur pour celui qui n'est pas juif. Et il n'est pas servi par les mêmes femmes, comme sollicitant quelque chose, comme s'il avait besoin de quelque chose, comme s'il venait nous mentir. Il n'a pas besoin de nous autrement. Lui-même, qui donne à tous vie et souffle et tout, et à partir d'un seul, ou d'un seul homme, ça c'est la Bible, d'un seul principe, ça ce sont les stoïciens, et à partir d'un seul, il fit toute nation d'hommes. Autrement dit, toutes les nations, tous les hommes ont un principe de solidarité. Et ce principe de solidarité, ce principe d'unicité du genre humain, exprime à son niveau l'unicité de Dieu. Voilà ce qu'il y a dans son petit raisonnement. Lui-même qui donne à tous vie et souffle et tout. Et il reprend des expressions que l'on trouve aussi chez les philosophes. Et donc, il fit toute nation d'hommes pour habiter sans cesse sur toute la face de la terre. Vous aviez des nations à la Pentecôte de Jérusalem, vous aviez des nations qui se trouvaient sur toute la face de la terre. Ayant fixé des moments, donc Dieu fixe notre habitacle, donc il domine l'espace, et il domine aussi le temps, donc il est maître de l'histoire, ayant fixé des moments, d'esprit et des limites à leur habitation. Donc il est en train de nous dire que le Dieu que vous cherchez, c'est un peu dommage, hein, c'est vraiment l'unique, hein. Vous en avez des quantités, et le vrai, le bon, le juste, hein, vous ne l'avez pas, il vous manque. Et pourtant c'est celui-là qui vous a mis là où vous êtes. C'est celui-là qui préside à votre histoire. Et donc, il vous a fixé des moments et des limites. Et pour chercher sans cesse, il vous a mis là, pour chercher sans cesse Dieu, pour voir si de fait, il le palpe, du moins, il le trouve. Donc, il est en train de leur dire maintenant, il y a en vous une sorte de quête de Dieu. Le quête d'un véritable principe d'existence. Il est présent en vous. Vous cherchez. Mais au fond, cette recherche, c'est sa présence en vous. Nous dirions aujourd'hui à des gens, mais au fond, Dieu, c'est une projection. C'est une projection de notre idéal. Vous parlez comme ça, nous entendons des tas de gens qui parlent comme ça. Donc vous vous imaginez Dieu parce que vous avez besoin de mettre un nom sur une inconnue. Vous imaginez Dieu et vous en faites une personne, hein, un peu à la mesure, en ouvrant un petit peu, en l'idéalisant à la mesure de vos propres personnes. Et vous lui donnez un visage humain. Beaucoup de gens voient des choses comme ça. Alors, Paul est en train de dire, mais je veux bien qu'il y ait une projection, mais si c'était la présence de Dieu qui vous fait profiter. Autrement dit, si cette projection était plus objective que vous ne le pensez, mais c'est ce qu'il est en train d'insinuer. Dans votre recherche d'un principe, d'un absolu, Dieu
Dieu est présent, mais il est présent à l'intérieur même de votre recherche. Donc, il va déjà très loin en philosophie. Hein.
Il a lu Feuerbach.
Il a lu Feuerbach, absolument. Pour chercher sans cesse Dieu, si de fait il me parle,
du moins,
il le trouve. Lui qui, du moins, n'est pas loin d'un chacun d'entre nous. Car en lui, nous vivons et nous murmurons et nous sommes. Voilà. Comme certains des poètes chez nous se trouvent l'avoir dit. Et il sait là, il a des lettres, hein. Il a suivi l'université de Tars. Car de sa race aussi, nous sommes. Car sa race aussi, nous la sommes. Hein. Ça, c'est la traduction tout à fait littérale. Hein. De sa race aussi, nous sommes. Nous sommes de la race de Dieu. Et ici, il ne fait que citer poète et philosophe grec. Étant donc race de Dieu, maintenant, hein, vous avez le logiciel. Étant donc race de Dieu. Ceci, donc, une fois posé, et je vous ai donné une trace en montrant que vous quêtez Dieu, vous avez une recherche. Étant donc race de Dieu, nous ne devons pas nous imaginer sans cesse. Ah, ici, il passe à l'image, la représentation. Que le divin soit semblable à de l'or ou de l'argent ou de la pierre. Bon, il en arrive au statut. Il est évident que les Grecs, ils étaient trop civilisés pour ça, les Grecs ne vénéraient pas ou n'adoraient pas les statues. C'était évident. Hein? Ils découvraient dans ce que ces statues et représentaient, ce dont elles étaient le symbole, ils découvraient des valeurs. Alors qu'ils se donnaient à eux-mêmes. Que ce soit Athéna, la valeur c'était la démocratie, ce que nous appellerions aujourd'hui la démocratie, la vie, la police, qui était en quelque sorte symbolisée par Athéna. Vous aviez l'idée de l'homme dans Apollon, l'idée de l'amour avec Aphrodite, etc., etc., etc. Ce sont des valeurs que l'homme se donnait à lui-même et qui étaient symbolisées par toute la mythologie. Il ne faut pas s'imaginer que nous venions là. Hein. Mais il ne faut pas s'imaginer que le divin soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre. Que les gens, évidemment, applaudissaient. Hein, l'or, l'argent et la pierre, c'est empreinte d'un métier, c'est l'expression, la facture, la fabrication d'un métier et d'un sentiment d'ordre. Ça, c'est une projection. Là, ce sont des projections. Les projections de vos propres valeurs. Ça, ce sont les dieux dont vous vous entourez. Ils travaillent comme aujourd'hui à l'audimètre. Vous voulez des dieux, on vous les donne. On vous donne justement ce que vous voulez. Quant à Dieu, donc, il revient cette fois-ci à Dieu. Ayant vu au-delà des temps de l'ignorance, puisque vous l'ignorez, hein, bien, Dieu a vu au-delà de tout ça, des temps de l'ignorance, c'est maintenant qu'il enjoint aux hommes de se convertir sans cesse tous et partout. Retournement, mes petits amis. On va marcher sur les mains. De se convertir sans cesse et partout. Pour la raison qu'il plaça un jour, dans lequel il va juger sans cesse l'univers, si c'est le Dieu unique, il est que l'univers, eh bien il a placé un jour dans lequel il va juger sans cesse l'univers en justice, en un homme. Et le principe du jugement, c'est un homme. Un homme qu'il fixa, ayant procuré à tous une garantie, une foi, littéralement, en l'ayant ressuscité. Vous voyez ce qu'il leur fait faire. Évidemment, hein, Saint-Luc nous dit ça en un petit discours. Comprenez bien derrière ce petit discours.
Il y a toute une session.
Ah oui, une belle session. Des années de. Des sessions à répétition, c'est clair. Des discussions. Mais au fond, Saint-Luc, et c'est ça son art, essaie de nous dire de façon très brève qu'est-ce qui est en train de se passer. Ces gens vivent selon des idéologies, l'idéologie épicurienne, l'idéologie socialienne, c'est-à-dire des manières de vivre, de percevoir l'homme, de percevoir la société, de percevoir le travail humain. Et on se forge une idéologie. Une idéologie doit être perceptible par tout le monde. Hein, si vous avez un peu de logique, vous pouvez entrer dans une idéologie. Vous pouvez entrer dans l'idéologie du marxisme, la lutte des classes, l'opposition. On voit bien que là, on se base sur les oppositions qu'il y a et on les caricature, on les augmente de plus en plus jusqu'à montrer qu'il faut faire un retournement à partir de cette opposition. Il faut retourner l'opposition. Vous étiez esclave, vous devez devenir les maîtres. Bon. Dans une idéologie, quelqu'un qui réfléchit un peu peut entrer. Et jusqu'ici, Paul a parlé, évidemment, avec tout son background de révélation historique, mais il a parlé en termes idéologiques. Et puis tout d'un coup, il vous passe à l'histoire. Il dit, Dieu intervient dans l'histoire à un moment par un homme. Et c'est ça la chose la plus difficile à faire pour un philosophe. C'est tout le chemin que fait, par exemple, Blondel dans l'action. Il passe à la réalité concrète. Mais ici, il va encore beaucoup plus loin, parce qu'il ne reste plus sur le plan de la philosophie, mais sur le plan de l'histoire concrète. Et lui, Paul, est en train de manifester ce moment et ce Jésus ressuscité des morts. Il est la figure de Jésus présente à ces gens. Et c'est ça qui est à découvrir. Dans le témoin, il vit l'homme. Mais quelle conversion! Quelle conversion à faire! Mais Saint-Luc nous dit de façon très précise ce qui est en train de se passer. Alors vous comprenez que devant ce langage-là, et ayant entendu résurrection des morts, les uns ironisaient, les autres dirent, nous t'entendrons à ce sujet encore de nous. Ça peut vouloir dire deux choses. On voudrait bien en savoir plus, ou bien, écoute, ça ne vaut pas grand-chose ce que tu racontes. On voudrait bien, peut-être que, on pourra en avoir encore davantage. Ainsi Paul sortit du milieu d'eux. Or certains hommes s'étant attachés à lui crurent, parmi lesquels aussi Denis l'Aréopagite, et une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Ce fut un succès très mitigé. Ce ne sont plus les grandes masses de 3000, 5000 du début. C'est vraiment intéressant de voir ce type de discours. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, un type de discours comme ça? C'est que nous avons par devant nous une révélation. Prenez par exemple, à propos de, on parlait de biologie, de manipulation génétique, nous avons par devant nous toute une révélation, et nous savons que l'homme est fait à l'image de Dieu, et que dans un homme, dès qu'il est un homme, dès le départ de son humanité, il y a une présence de Dieu. Nous le savons. Et nous ne pouvons pas parler comme ça au Parlement. Au Parlement, nous devons trouver, tout en ayant nos références à la révélation, nous devons trouver un langage qui rencontre l'homme sur son terrain. Et lui montrer jusqu'à quel point les valeurs auxquelles nous sommes attachés sont aussi des valeurs auxquelles ils sont attachés, s'ils veulent bien les mener jusqu'au bout. Et donc il y a un effort terrible à faire sur le terrain même, qu'il soit social, qu'il soit politique, qu'il soit médical, juridique ou autre, il y a un chemin pour rencontrer l'homme de science, l'homme du savoir, comme ici, pour le rencontrer à son niveau. Et pour trouver les arguments humains
qui concorde avec nos arguments de révélation. Et ça n'est pas évident. N'est pas évident. Et souvent, le résultat de nos discours ou de ceux du pape, ça tombe exactement comme cela. On dit, tiens, on l'entend dans l'absolu, notre foi. Enfin, hein, tu rétrogrades quand même, hein. Ça, c'est du siècle passé.
C'est pas l'homme.
Ou c'est pas l'homme, c'est autre manière. Non, mais vous voyez l'importance d'un discours comme cela dans. On dirait, bon, c'est une pure anecdote. Non, c'est pas une pure anecdote. C'est un discours typologique. Il nous dit, il y a quelque chose à tirer. Il nous dit, il ne nous dit évidemment pas hein, quel discours nous devons tenir hein, lorsque on discute à la Chambre la dépénalisation de l'avortement. Il ne nous dit pas ce qu'il faut dire. Mais il nous dit la manière de procéder. Et donc, en ça, il nous montre comment la parole rencontre les cultures, mais avec une énorme vulnérabilité. C'est-à-dire que ce que nous savons par la révélation divine et par l'histoire, nous ne pouvons pas le donner comme une. Oui, nous pouvons le donner comme une conviction propre, mais nous ne pouvons pas l'asséner comme
un droit naturel.
C'est ça, comme un droit naturel ou comme un argument absolu qu'ils doivent pouvoir reconnaître. Nous devons entrer d'abord dans leur compréhension. C'est un très bon chemin. C'est plus facile, en quelque sorte, quand il est en milieu juif. Et nous voyons aussi la différence qu'il y a.